Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Yves sur RDWA et c'est l'heure de l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 ou sur le 101.7 à Luc-en-Diois. Aujourd'hui au studio, nous sommes en compagnie de plusieurs personnes, à commencer par monsieur Pascal Baudin, bonjour.
Bonjour.
Pascal Baudin, vous êtes vice-président en charge de l'eau à la communauté de communes du Diois et maire de Bellegarde en Diois. À vos côtés, nous avons Marilyn Wolff-Roy, maire de Saint-Andéol. Bonjour.
Bonjour.
Et David Vieux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président du syndicat des eaux de la vallée de Quin, et qui réunit entre autres Saint-Andéol, Vachères et Saint-Julien-en-Quin. Et tous les trois, donc, vous êtes ici pour nous parler de ce projet de portage de l'eau par l'intercommunalité du Diois, et ce, à partir de 2026. Donc, il s'agit d'un transfert de compétences. Alors, on décrira ce que sont ces compétences, mais avant tout, ce que je souhaiterais, c'est peut-être, pour situer un peu le contexte, donner l'historique de ce réseau de distribution de l'eau sur le Diois.
Alors, avant de répondre à ça, vous dites un projet de la communauté de communes. Ce n'est pas un projet de la communauté de communes, c'est la loi. Donc, la loi dit qu'effectivement, à partir du 1er janvier 2026, les communautés de communes doivent prendre la compétence eau assainissement. Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de la communauté de communes du Diois, les élus sont défavorables à cette prise de compétence, mais à la fois, ils ont décidé unanimement de s'y préparer. Alors, quand on dit ça comme ça, on a l'impression d'une grosse contradiction entre le fait d'être opposé et le fait de s'y préparer. Ce qu'il faut bien voir, c'est que toutes les communes du Diois sont en service public, c'est-à-dire elles assurent elles-mêmes le rôle de distribution d'eau, distribution de l'assainissement, etc. Donc c'est une régie publique. Il n'y a pas de délégation de service public dans aucune commune du Diois. Donc la volonté des maires, c'était de garder une régie publique. Et la meilleure façon de garder une régie publique, c'est d'avoir au niveau de la communauté de communes une régie publique et de ne pas dépendre, de ne pas avoir à faire une délégation de service public, ce qui permet effectivement d'avoir, à notre avis, un meilleur contrôle. Et si on veut effectivement monter une régie publique, on doit s'y préparer parce que c'est un exercice qui est quand même long à faire, de façon à bien maîtriser les choses. Donc on a besoin de ces 2 années pour se préparer à monter cette régie publique.
Alors, je reviens à ma question sur l'historique un peu de ce système de distribution de l'eau. Comment a-t-il été créé ?
Du coup, effectivement, je ne vous réponds pas. Alors, historiquement, je crois que dans tout le Diois, les maires successifs de toutes ces petites communes se sont toujours préoccupés de cette ressource en eau, ont toujours développé leur réseau. Et encore une fois, ils l'ont fait avec le conseil municipal, avec des fois un employé communal. Et depuis toujours, voilà, sous forme de bénévolat, sous forme d'action menée par la commune, les gens se sont occupés de cette eau. Et dans le Diois, on a donc 47 régies d'eau communale. Et on a juste l'exception de Saint-Julien-en-Quin, qui, à 3 communes, ont formé un syndicat, mais on a notre président de syndicat qui est là, qui saura mieux le développer que moi. Donc, historiquement, les gens se sont toujours préoccupés de leur eau dans le Diois.
David Vieux, vous êtes président du syndicat des eaux de la vallée de Quin, et vous pouvez peut-être nous parler aussi de ce regroupement de communautés ou de communes autour de cette gestion.
Oui, bien sûr. Alors, historiquement, voilà, le manque d'eau sur la commune de Vachères, donc les maires de la vallée, donc des 3 communes, Vachères, Saint-Andéol et Saint-Julien, se sont mis autour de la table pour élaborer un réseau de distribution étendu sur les 3 communes. Donc ce réseau, il mesure 35 kilomètres, voilà. pour à peu près 220 abonnés, avec un relevé annuel de la consommation de tous les abonnés. Et donc, ça, c'est quelque chose qui a été mis en place dans les années, création du syndicat dans les années tout début 80 et mise en service du réseau 82. Voilà, donc depuis, c'est le syndicat des eaux de la vallée de Quin qui fonctionne et qui distribue l'eau à tous ses adhérents.
Quelle est la participation active de chaque commune, justement, dans ce syndicat? Vous, Marie-Line, en tant que maire de Saint-Andéol, quelle est votre fonction dans ce système?
Eh bien, nous, en tant qu'élus des communes adhérentes au syndicat, on fait partie du conseil syndical, c'est-à-dire qu'on se réunit plusieurs fois par an pour prendre des décisions, quoi, faire des choix par rapport aux travaux, voilà, par rapport à des engagements à faire, voilà, des projets.
Pour préciser, il y a 3 représentants par commune qui siègent au syndicat. Voilà.
Donc il y a en prévision pour 2026 ce transfert de compétences de la communauté des communes. Pourquoi cette levée de bouclier sur cette attribution?
Moi, je crois qu'historiquement, les gens veulent garder leur façon de faire dans chaque commune. Le problème, c'est qu'on se rend compte qu'il y a peut-être un exercice difficile à faire dans un avenir climatique qui est plus ou moins incertain. Hein. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'on va vers une baisse des débits d'eau. Donc on a quand même quelques communes qui s'inquiètent de cette baisse. Donc peut-être que dans un souci de réflexion sur le partage de la ressource, le fait de mutualiser ensemble, ça peut être une piste pour l'avenir. Donc voilà, c'est ce qui amène aujourd'hui depuis... En fait, c'est un exercice qu'on a démarré en 2016 suite à des conflits avec l'Agence de l'eau sur la consommation d'eau qu'on ne maîtrisait pas bien. Je dirais que l'aventure d'Iwaze, elle a commencé à cette époque-là, c'est-à-dire à commencer à travailler ensemble pour dire comment est-ce qu'on améliore nos services, comment est-ce qu'on rend mieux service aux consommateurs. Donc on a pu effectivement travailler sur l'assainissement, sur l'eau potable, pour améliorer le service.
Puis il y a aussi la vétusté de certaines canalisations, oui, de réseaux. Ça, c'est aussi un travail qui a été effectué déjà par l'intercommunalité, ou du moins sur son égide.
Alors, ça a été effectué pas par l'intercommunalité, parce qu'on n'a pas la compétence, mais ça a été fait par les communes. Donc, effectivement, on a pu monter des contrats entre communes, agences de l'eau, départements, Et puis les services de l'État, puisqu'il y a la DETR. Et ça nous a permis, effectivement, de renouveler des réseaux qui étaient fuyards. Mais c'était bien à l'initiative des communes. C'est pas la communauté de communes était présente pour orchestrer un peu tout ça. Mais en aucun cas, la communauté de communes n'a jamais imposé à une commune de faire telle ou telle tâche. C'était bien du ressort des communes, puisque la compétence aujourd'hui est aux communes.
Alors, pour ces compétences qui vont vous être attribuées, quelles sont les fonctions principales qui seront à votre charge?
Ah ben, on aura notre charge, tout le service, c'est-à-dire qu'aujourd'hui...
Mais est-ce qu'il y a des priorités aussi
Le gros travail pour nous, c'est qu'aujourd'hui, dans le Diwa, on a une infrastructure qui est colossale, hein, puisque on a 95 réseaux d'eau potable, sur à peu près 500 km de réseau. On a 122 ressources actives, 109 réservoirs, 62 stations de traitement d'eau potable, 45 stations d'épuration, et tout ça avec 9600 abonnés. C'est-à-dire qu'on se rend compte de la complexité du territoire. Il y a bon nombre de communes, je prends un exemple comme Boulc ou comme Luce-la-Croix-Haute, qui a plus de 10 réseaux, 10 sources. Donc il y a une complexité énorme de ce territoire qui fait que on doit aller tout azimut. On doit monter effectivement un service qui réponde à tous ces enjeux-là et qui doit se déployer sur le terrain avec le côté financier des choses, qui fait que si on ne veut pas que le prix de l'eau explose, il faut qu'on raisonne vraiment les opérations qu'on va faire et la façon dont on va le faire.
Comment on va s'articuler justement ces phases de restructuration en quelque sorte ou de mise à jour ?
Alors actuellement, moi je dirais que là c'est peut-être un petit peu prématuré de parler de ça. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui on s'attache à un peu dimensionner ce service, dimensionner de manière humaine et dimensionner de manière financière. C'est-à-dire que on réfléchit effectivement au nombre de personnes qui devront travailler dans ce service. À la fois, on discute aussi avec les communes en commission. C'est quand même une commission qui regroupe 35 communes. On se réunit tous les deux mois et on discute effectivement des travaux qu'on va engager, des personnes qu'on va devoir embaucher, du rôle de chacun, savoir si on essaye de garder du bénévolat dans les communes, comment ce bénévolat peut être rémunéré, des choses comme ça. Et puis, à côté de ça, on attaque aussi le volet financier où on étudie un peu la comptabilité des communes de façon à faire bien ressortir ce que coûte réellement l'eau dans la commune. Parce que ça, c'est un exercice où les maires ne sont pas forcément habitués à le faire. Et il y a bon nombre de maires qui se doutent pas de ce que leur coûte l'eau. Donc il y a tous ces exercices à faire et qu'on a entamé de faire là dès le mois d'octobre pour effectivement avoir des analyses financières, des analyses de nombre de personnes, etc., etc.
La question aussi par rapport à ce transfert de compétences, est à savoir si ce transfert est accompagné d'un apport financier de l'État pour mettre en place ces compétences.
Non, l'État, lui, il est là pour dire la loi sera comme ça, à nous de nous débrouiller. Alors, aujourd'hui, on sait que ce que font les communes aujourd'hui, elles ont 80% de subventions sur les travaux qu'elles entament. Ce qu'il faut bien noter, c'est que les 20% restants, quand on est sur des opérations dans une petite commune de l'ordre de 500 000 euros, les 20% restants sont des sommes énormes pour les communes. Il y a des communes qui font 500 000 euros de travaux pour une vingtaine d'abonnés à un service. Donc il faut bien se rendre compte qu'on est dans des échelles très importantes de travaux et de coûts financiers. Et je suis en train de me perdre dans ce que vous m'avez demandé.
La générosité de l'État.
La générosité de l'État. Donc aujourd'hui, on sait que les communes sont aidées à 80%. Comment sera aidée la communauté de communes en 2026? Ça, on ne sait pas. Alors, on sait qu'il y aura des aides, mais est-ce qu'on aura 80%? C'est un peu maintenant ce qu'on va négocier avec les services de l'État. C'est-à-dire qu'on continue à être aidé. Parce qu'encore une fois, 9600 abonnés et tout ce réseau-là, sachant que chez nous, on ne peut pas dire qu'on va faire du maillage de communes commune en commune. La vallée de Quin l'a fait parce qu'il y avait une configuration géographique qu'il faisait. Mais si quelqu'un de Marignac avait voulu dire à Saint-Julien-en-Quin « Amenez-moi de l'eau », je ne suis pas sûr que ça soit une opération qui ait pu se faire. Donc, encore une fois, la loi, elle est faite pour un cadre général, et nous, on est une particularité.
Justement, pour Monsieur Vieux, la vallée de Quin, comment sont constituées les équipes pour gérer cette eau?
Alors, au départ, donc, c'est trois représentants élus au conseil municipal de chaque commune qui siègent au comité syndical, et ensuite au comité syndical, donc j'ai été élu président il y a déjà plusieurs années. Et nous avons ensuite juste un agent d'entretien qui assure le relevé annuel de consommation, qui fait le relevé mensuel aussi du compteur général, qui vérifie la station de traitement, qui vérifie aussi au niveau du réservoir, puisque c'est un flotteur qui gère l'entrée du flux d'eau dans le réservoir. Donc là, il faut gérer ça quand même régulièrement, donc une fois par semaine. Mais voilà, on n'a pas plus de personnel au niveau du syndicat. Et ensuite, c'est le réseau, enfin le réseau de personnes qui fonctionne quand il y a une fuite. C'est ou moi en tant que président ou l'employé qui sont au courant. Mais voilà, on fonctionne comme ça, quoi. On n'a pas de salariés propres dans chaque commune. Il y a juste un employé à temps partiel sur le syndicat.
Par rapport à la gestion de l'eau et son origine, l'eau est considérée importante à quel moment ? À partir de sa source propre ou alors dès qu'elle rentre dans un circuit de distribution ?
L'eau, de toute façon, dans son contexte, toute l'eau est importante. L'eau qu'on ne consomme pas, elle reste dans le milieu, elle sert indirectement à la rivière. Nous, ce qu'il faut aujourd'hui dans les communes, c'est arriver à prélever le moins possible, prélever ce dont on a besoin. C'est pour ça qu'il y a des systèmes de trop-plein, des choses comme ça. Effectivement, aujourd'hui, il faut qu'on se préoccupe dans ce climat de baisse quantitative. Il faut qu'on s'habitue à moins consommer, de façon à ce que ça soit pas le milieu qui soit pénalisé. Le gros problème qu'on a dans notre région, c'est que les baisses de débit ont lieu en été. L'été, c'est les moments où on connaît le plus de fréquentation. C'est les moments où on a le plus besoin de cette eau. Et dans ce calcul complexe qu'est le quantitatif eau, il faut qu'on tienne compte effectivement du citoyen qui a besoin d'eau potable. Il faut qu'on tienne compte de l'agriculteur qui éventuellement irrigue. Il faut qu'on tienne compte de l'industriel qui effectivement transforme des produits et a besoin d'eau. Et puis, il faut qu'on tienne compte de ce que le milieu a besoin. Donc, il y a un volume qu'on appelle volume prélevable. Et ce volume prélevable, on doit en tenir compte de façon à laisser au milieu le nécessaire pour vivre et éviter d'avoir des assecs sur notre rivière.
Ce débit, cette eau prélevable, elle est décidée sur quelles conditions ou sur quels critères, cette quantité ?
Alors c'est l'État qui gère ce quantitatif, qui donne des autorisations de prélèvement. Et ces autorisations de prélèvement vont être discutées dans les mois qui viennent, puisque on part un peu dans du complexe par rapport aux PTGE qui vont être mis en place, c'est-à-dire programmes territoriaux de gestion de l'eau. Donc je ne sais pas s'il faut aller dans ce domaine-là aujourd'hui, parce que là, ça nécessiterait d'expliquer les PGRE, l'échec des PGRE et pourquoi on met ça en place.
Alors cette eau, il faut la rendre aussi potable. Je suppose que dans nombreux villages, il y a des stations d'adoucissement, d'épuration de l'eau.
Alors dans le Diois, historiquement, on a un peu quelques coliformes ou quelques streptocoques fécaux qui se baladent parce qu'il y a des troupeaux, parce qu'il y a des choses comme ça. Donc effectivement, au niveau de, je l'ai dit tout à l'heure, il y a 62 stations de traitement. En général, majoritairement, c'est des stations traitement par UV. Il y a des stations chlore un petit peu aussi. Mais effectivement, on est tenu, la législation, l'ARS, nous impose à ce que, quand il y a des problèmes de qualité d'eau, on traite l'eau.
D'ailleurs, oui, la potabilité de l'eau est étudiée par quel organisme ?
C'est l'ARS qui suit ça, donc le département Marilyn en tant que maire, elle devrait donner une petite explication de ce qu'elle fait chaque année en tant que maire.
Au niveau des contrôles, c'est l'ARS qui envoie un contrôleur d'un laboratoire agréé tous les deux mois en principe, et donc s'il n'y a pas de problème, les contrôles peuvent s'espacer un petit peu. Par contre, s'il y a des coliformes ou des choses comme ça qui apparaissent dans les analyses, eh ben, les contrôles sont refaits tous les 10 jours et avec obligation de traitement dans les communes ou comme nous, le cas du syndicat, quoi.
Et par contre, les taux se resserrent un peu autour de certaines communes qui continuent à ne pas traiter l'eau et qui ont des analyses mauvaises. C'est que depuis cette année, on a des permis de construire qui reviennent négatifs. parce que l'eau est restée trop longtemps non conforme à la législation sur des périodes trop longues, quoi.
La gestion de l'eau, du point de vue de Marilyn, vous êtes donc maire de Saint-Andéol. Comment se passe cette gestion au sein de la commune même? Est-ce qu'il y a un rapport aussi avec l'habitant pour en connaître aussi les avantages ou parfois des désagréments?
Alors, pour moi, en tout cas pour la part de Saint-Andéol, c'est plutôt confortable dans le sens où c'est pas nous qui gérons, c'est le syndicat qui gère l'eau. Donc nous, on est en lien étroit avec le syndicat. La preuve en est, le bureau du syndicat siège à la commune de Saint-Andéol. On partage la même secrétaire. Donc le lien entre les habitants, les questionnements qu'il peut y avoir, soit parce qu'on a des habitants qui viennent nous rencontrer, soit parce qu'ils nous appellent, ils nous envoient un mail. Donc nous, on relaie auprès du syndicat. Et on se voit dès que besoin. En tant que maire, je fais partie de la commission eau-assainissement. Et nous, sur le hameau de Saint-Étienne-en-Quin, en l'occurrence, on est en train de faire des travaux pour une station d'épuration. Et du coup, comme je suis un nouveau maire, c'était super important pour moi de participer à cette commission. Et au sein de cette commission, il y a un groupe de travail communication pour réfléchir à comment faire connaître aux habitants, faire comprendre les enjeux de ce transfert de compétences auprès de la communauté de communes. Parler d'eau potable, de réseau, de consommation, de tarifs à la population en des termes entendables et compréhensibles. Et donc, à ce titre, on travaille donc au sein de ce groupe de travail, on prépare des différents épisodes de communication par le biais de différents médias tels que le journal de la communauté commune, tels que la radio, pour aborder le sujet des sources, des réseaux, d'eau potable, pour aborder le sujet de l'assainissement, pour aborder la question des tarifs. Voilà. Et donc, plusieurs épisodes seront communiqués à plusieurs mois d'intervalle jusqu'au transfert.
En quelque sorte, Monsieur Vieux, c'est une mutualisation de ces trois communes autour de ce syndicat.
Oui, c'est tout à fait ça. Au départ, donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je me répète peut-être un peu, mais il manquait de l'eau sur la commune de Vachères. Donc on s'aperçoit que le problème de l'eau, les baisses des sources, c'est pas quand même que de ces temps-ci, même si c'est vachement marqué maintenant. L'ancien maire donc de Vachères a pris contact avec la vallée, donc Saint-Julien, pour voir s'il y avait quelque chose de possible, sachant qu'il y avait beaucoup d'eau qui était déversée dans les ruisseaux et qu'on pouvait faire une captation à certains endroits. Et donc c'est à ce moment-là qu'ils ont mutualisé la chose. Et donc les trois communes ont été partie prenante dès le départ. Donc félicitations à ces maires quand ils ont lancé le syndicat. Et ensuite, avec des aides de l'État à ce moment-là, dans les années 80, tout le réseau de jusqu'à 35 km a pu être fait. Le syndicat distribue donc à 230 abonnés à peu près et laisse passer dans la rivière presque plus de la moitié de la consommation journalière de tous les abonnés, et qui est de 300 mètres cubes à peu près.
Ce que je peux ajouter à ce que vient de dire David, c'est que, pareil, au niveau de la commune de Saint-Andéol, il y a 4 hameaux qui avaient leur réseau respectif. Et aujourd'hui, le constat, c'est que il y a des réseaux qui ne pourraient plus fournir de l'eau, notamment en été, aux habitants. Donc c'était aussi une excellente idée et initiative que de se raccorder, que de faire équipe les trois communes avec la source de Saint-Julien.
Monsieur Baudin, vous-même, étant maire de Bellegarde en Diois, vous avez eu aussi ces quelques inquiétudes les deux années précédentes concernant la raréfaction de l'eau.
Alors moi, je suis élu depuis 1995, et depuis 1995, je suis impacté par des baisses d'eau. Alors, au départ, en 95, c'était parce que j'avais un réseau qui était extrêmement fuyard. Et depuis 95, j'ai l'impression de n'avoir fait que ça, c'est-à-dire du renouvellement de réseau. Mettre en place l'épuration à Bellegarde parce qu'il n'y avait pas d'épuration. Donc, chacun se déversait un peu comme il voulait, avec plus ou moins une fosse septique qui était efficace ou pas, des drains qui étaient plus ou moins efficaces, des vieux puisards, des choses comme ça. Donc de 95 à jusqu'à l'année dernière, je n'ai fait que ça, le traitement de l'eau, parce que moi je considère que, David l'a dit, il laisse une partie de l'eau à la rivière. Alors moi je laisse aussi une partie de l'eau à la rivière, mais en sortie des maisons, moi je récupère l'eau, je la traite, et je la restitue à la rivière. Donc, pour moi, ce schéma, il est complet dans la mesure où on prélève, on traite pour distribuer, on récupère après la distribution, on traite et on restitue au milieu. Et ça, pour moi, c'est le cycle complet de ce que devrait être l'eau dans les communes. Et ça me semble être important de bien comptabiliser ce qu'on utilise et de restituer au bout du compte.
Alors depuis 2016, il y avait cette bronca contre cette transfert de compétences, mais plutôt avec une faveur pour la mutualisation. Ça peut-être à l'image de ce qu'on voit à la Vallée de Quin. Est-ce que ça c'est une piste pour la communauté de communes?
Alors c'est ce qu'on a proposé un peu cet été. On avait effectivement saisi les parlementaires de la Drôme. On a même envoyé un dossier à notre président de la République qui est un peu resté lettre morte. Mais c'est effectivement une proposition de se dire fonctionnons avec une mutualisation bien précise, avec un cahier des charges bien précis, avec des objectifs bien précis. Mais laissons aux communes l'autonomie de fixer le prix, d'organiser leurs travaux, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de réponse par rapport à ça. Donc on se dirige, nous, toujours dans la préparation de cette prise de compétence.
Il y a en même temps des rencontres, des échanges avec les structures d'État pour vous guider ou aussi donner des directions sur le travail.
Alors on a toujours effectivement des relations avec le département, avec l'agence de l'eau et les services de l'État, puisque on a ce qu'on a dans le Diois, ce qu'on a appelé le contrat de progrès, c'est-à-dire depuis 2016, quand on avait fait un état des lieux des communes, on s'apercevait qu'il y avait bon nombre de communes où il y avait quand même énormément de travaux à faire. Donc on s'est appliqué depuis 2016 effectivement à discuter avec les partenaires pour obtenir des financements pour améliorer nos services. Et c'est quand même le dernier contrat qu'on a eu avec l'agence de l'eau et le département. C'est quand même 9 millions de travaux qui ont été fléchés. Et on n'est pas loin d'aboutir au respect de cette enveloppe, quoi.
Et je rajouterais peut-être aussi qu'on est en lien étroit avec nos parlementaires, c'est-à-dire les sénateurs et la députée, et on est main dans la main pour communiquer à l'État notre scepticité du transfert et voilà, essayer de trouver une alternative qui serait adaptée à notre territoire, à la configuration du Diois, quoi.
Cela permettrait, d'après ce transfert, d'améliorer peut-être les principes fondateurs, et c'est-à-dire aussi le fonctionnement en régie publique pour maîtriser le service. Ça sera au niveau de la communauté de communes. Comment seront gérés justement ces services? Est-ce qu'il y aura, vous l'aviez dit peut-être, d'embaucher peut-être du personnel pour mettre en place ce système?
Ben, moi, je ne vais pas m'aventurer dans le dimensionnement de ce que sera ce service. Je crois que c'est un travail qu'on est en train de faire élu, et surtout, c'est un travail qui est fait au niveau de la commission. Moi, je remercie quand même tous les maires, tous les adjoints, tous les gens de conseils municipaux qui viennent à cette commission, qui se réunit, je l'ai déjà dit tout à l'heure, là, deux fois, tous les deux mois. Et je trouve que c'est important. On est à chaque commission 30 à 35 personnes dans la salle. Et moi, j'ai toujours tenu à ce qu'il y ait avant tout une discussion. Et je ne me vois pas imposer des choses au niveau du fonctionnement. Moi, je tiens à cette démocratie locale qui est de se dire, eh ben, on avance petit à petit. Alors, pour certains, on avance trop lentement, mais moi, ça me dérange pas. Mais avancer petit à petit, de façon à laisser personne au bord du chemin et avoir le maximum de personnes qui adhèrent à ce qu'on décide. Et moi, Olivier Touringue avait démarré ce travail en 2016. Moi, je le continue depuis les dernières élections. Et je pense qu'on est tous les deux sur cette ligne de conduite qui consiste à dire qu'il faut qu'effectivement, on ait une participation des élus municipaux. Parce que pour moi, c'est l'intérêt de l'exercice, quoi.
Et j'aurais envie de témoigner que pour moi, c'est d'autant plus important de prendre le temps et de réfléchir ensemble et d'échanger, parce qu'on est en effet un mélange d'élus qui sont là depuis, pour certains, quelques mandats, enfin au moins un mandat, et d'autres qui sont nouveaux. Et il y a vraiment besoin, c'est un sujet complexe, il y a vraiment besoin de s'approprier ce sujet, de comprendre les enjeux, de mesurer, d'adapter aux communes qui sont... Enfin, les configurations sont quand même différentes. Donc, vraiment, moi, je suis très reconnaissante du travail qui est mené au sein de cette commission par élus et salariés, parce que il y a cet effort de communication et d'appropriation de la complexité du sujet.
Et dès 2016, on avait quatre grands principes fondateurs, hein, qui étaient donc cette régie publique, ça on y tenait tous, hein, des tarifs abordables, alors reste à définir aujourd'hui ce qu'est un tarif abordable, hein, de la souplesse et de la simplicité dans le fonctionnement, et puis de maintenir des relais locaux. Parce que pour moi, le lien à un service, il ne peut se faire que si on a localement des gens qui continuent à se préoccuper de ça. Si demain, c'est juste un coup de téléphone à la communauté de communes, ça ne pourra pas bien fonctionner. Par contre, si on a des gens qui, effectivement, s'approprient le service et sont partie prenante de le développer, bah, il y aura pas de souci. Et je rappelle encore une fois qu'on est vraiment dans un contexte de changement climatique et que les habitudes, c'est si on veut que dans 10 ans, on ait vraiment des baisses de débit, de consommation, pas de débit, si on a des baisses de consommation, c'est des efforts qu'on doit faire dès maintenant de façon à s'y habituer.
Là, c'est une question à part. Je voulais savoir, est-ce qu'il existe réellement cette idée d'opérer deux réseaux d'eau, l'un pour la consommation humaine et l'autre pour d'autres diverses tâches? Est-ce que ça, c'est un fantasme ou c'est une réalité à venir?
Alors, ce serait une réalité. Le problème, c'est que l'autre réalité qu'il y a, c'est qu'il y a l'économique, c'est-à-dire que ça obligerait effectivement à ouvrir les rues, refaire des canalisations, dans les maisons, que les gens refassent des canalisations. Mais on pourrait effectivement, sur des permis de construire à venir, on pourrait dire, ben voilà, il vous faut une cuve récupération d'eau. Et vous récupérez vos eaux de pluie, et puis bah, votre WC, au lieu de fonctionner avec de l'eau potable, bah, fonctionne avec de la récupération d'eau. Donc non, je crois que on est un peu comme l'énergie, il nous faut du mixte énergétique, là il nous faut du mixte économie d'eau. Donc je crois que toutes les pistes sont bonnes à avoir, des imperméabilisations, récupération d'eau, etc. Mais même, je l'ai dit, hein, en sortie de station d'épuration, si l'eau est bien traitée, elle sert au milieu. Donc il faut aller dans tout azimut.
Et puis il y a... Oui, vous vouliez rajouter quelque chose ? Non. Et il y a aussi ce territoire, cette notion de territoire pilote pour expérimenter justement ce que serait un service mutualisé en zone de montagne, notamment. Le DIWA rentre dans ce cadre. Quelles sont ces propositions ou quelles sont ces tentatives que vous opérez ?
Alors nous, on a inventé le circuit court de l'eau. C'est une manière de se dire, dans tous ces services, les 9600 abonnés, la ville de Die, c'est 3400. Ça veut dire que dans toutes les autres communes, ça veut dire qu'il y a assez peu de monde, finalement. Quand il y a peu de monde, en fait, les gens sont très sensibles à l'eau. Et pour moi, c'est... Voilà, c'est une sensibilisation. Je crois que les gens ont l'eau dans leur âme, presque. Et je pense que du coup, on a une réflexion différente de quelqu'un qui habite Valence et qui ouvre son robinet, qui ne se pose pas de questions et qui laisse peut-être couler d'ailleurs son robinet. Donc je crois que nous, on a vraiment ce circuit court de l'eau, cet historique et ce partage de l'eau.
Moi, je peux vraiment témoigner que les habitants nous questionnent, nous sollicitent, s'interrogent, nous demandent de conduire une réflexion globale sur l'eau, l'eau potable, mais les usages de l'eau, l'économie, l'entretien des réseaux. Je parlais tout à l'heure des anciens réseaux, hein, parce qu'on a toujours les anciens réseaux des hameaux qui fonctionnent encore, mais qui sont entretenus tant bien que mal, avec très peu de financement dédié. Donc, voilà, c'est un sujet de préoccupation. Je peux vraiment, vraiment l'affirmer pour tout le monde, hein, et j'inclus les élus, évidemment.
Il y a aussi l'habitant, comme vous disiez, Marilyn, donc il y a ces échanges, il y a aussi des inquiétudes de la part d'habitants. Est-ce que cette compétence ou cette gestion de l'eau tendrait à les rassurer pour la suite à venir ?
Alors, je ne sais pas si on va rassurer les gens. L'habitant, il a une crainte, c'est d'abord, il veut avoir de l'eau demain à son robinet, et puis il veut surtout que ça lui coûte pas trop cher. Donc c'est pour ça quand dans les principes fondateurs on avait mis un tarif abordable, il faut aussi que cet habitant il sache ce qui se passe entre la source et le robinet, et que tous ces services qui sont en place, c'est-à-dire l'acheminement, parce que l'eau elle coûte pas cher en fait, l'eau elle coule à un endroit, le problème c'est qu'il y a des tuyaux. Et que le traitement, le tuyau, la récupération, le retraitement et la restitution, eh ben ça coûte de l'argent. Donc il faut que raisonnablement, à un moment donné, le consommateur ou le citoyen, il sache que l'eau, elle a un prix. Et que il faut effectivement qu'on puisse avoir un service qui s'équilibre. Parce que la loi de demain, c'est ça, c'est que l'eau doit payer l'eau, l'assainissement doit payer l'assainissement. Donc, ces choses-là ont un coût et il faut qu'on le paye.
L'eau paye l'eau, ça veut dire que un citoyen qui ne serait pas raccordé à un réseau, parce qu'il a sa propre source, ne doit pas, avec ses impôts locaux, payer le raccordement à la source des autres, de ceux qui sont déjà engagés.
Raccordés,
voilà. Ou quelqu'un qui a sa propre fosse septique ne doit pas payer le réseau d'assainissement collectif.
Il y a un calendrier d'ici 2026 déjà qui se met en place.
Oui, il y a un calendrier. Et des fois, moi qui m'occupe de ça avec les services de la communauté de communes, hein, d'ailleurs je tiens à remercier hein, tous ces gens qui font ça, parce que c'est vraiment une épreuve collective, hein, de se lancer dans cet exercice. Donc effectivement, on est sur un calendrier, on a l'impression que 2026 c'est loin, mais pour nous, ça nous donne un peu le vertige, parce que 2026 en termes de calendrier, c'est court. Donc effectivement, là, jusqu'à la... pour ce premier début de trimestre 2024, on va mettre l'accent sur le côté financier, c'est-à-dire que chaque mairie se rende compte de ce que coûte l'eau chez elle, ce que coûte l'assainissement chez elle. Et donc déjà, ça va être une première approche. Après, on est toujours, avant 2026, à se dire qu'il faut qu'on ait un service minimum de la part des communes. Et ce service minimum, aujourd'hui, c'est que la commune, elle doit gérer ses volumes. Donc à elle de faire en sorte que dans les deux années qui viennent, elle gère ses volumes à la production et à la consommation. Que la ressource des communes soit sécurisée. C'est-à-dire qu'on a encore quelques communes dont les périmètres de protection, tout ça, ne sont pas forcément dans le cadre de la loi. Il faut qu'on ait absolument une connaissance des réseaux, parce que jusqu'à présent, dans des petites communes, c'était souvent la mémoire d'une personne. Et puis si cette mémoire n'était pas bien transmise, voilà, il y avait des oublis. Il ne faut pas oublier que ces réseaux, il y en a certains qui datent de l'après-guerre. Donc il a fallu se transmettre cette mémoire, et c'est pas toujours évident. Donc on doit travailler sur la connaissance. Il faut que la commune ait un service minimum sur l'assainissement. Et sur l'assainissement, c'est le zonage. Savoir si une maison, elle sera dans du collectif ou si elle sera dans un individuel. Et puis, c'est ce côté budget que je viens de vous citer.
Moi, j'aurais envie d'insister, de répéter peut-être que ce qui est très, très, très clair et évident aujourd'hui, c'est que l'ensemble des 50 communes du territoire souhaitent que l'eau reste en service public. Voilà. Transfert, pas transfert, c'est une affirmation haut et fort.
Juste la dernière question, pourquoi ce transfert? Qu'est-ce qu'il laissait craindre de la part des maires du Diwa?
Ouais, je crois que de la part d'un maire, ce qui se dit aujourd'hui, c'est que je me suis fait déposséder d'un certain nombre de compétences. Et puis que demain, qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester l'état civil et puis les emmerdements, parce qu'il y a un citoyen qui ne sera pas content, des choses comme ça. Donc à un moment donné, les maires ont l'impression de se sentir dépossédés de leurs compétences. Sur le site de la communauté de communes, il y a tout un tas d'informations sur, en règle générale, le fonctionnement de la communauté de communes, et en particulier l'évolution de ce service.
Je vous remercie tous trois, Pascal Baudin, David Vieux et Marilyn Wolferoy, d'être parmi nous pour nous présenter donc ce transfert de compétences de l'eau, de la gestion de l'eau pour l'intercommunalité du Diwa.
Merci.
Et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci.
Merci.
Au revoir.
I creep up to old red cars and lick off the rust. I'm a mirrorless. I'm a mirrorless. Mother used to try to meddle in my affairs. Keep your nose up off. Get the lead out of your pants and change your underwear. I've been stealing baby bottles since I was born.
We'll be right back.